Y a-t-il deux Arthur Rimbaud ? Le premier, celui qui écrit Une saison en enfer à 19 ans, et le second, celui qui renonce à la littérature pour parcourir le monde en homme aux semelles de vent et devenir négociant en Abyssinie. À cette question classique, Henri Guillemin, spécialiste de l'histoire littéraire du XIXe siècle, répondait assurément par la négative. En 1963, pour trois émissions diffusées sur la chaîne nationale, c'est en s'appuyant sur les textes qu'il entendait prouver en quoi Rimbaud était un et un seul. Démonstration qui commençait, pour les deux premiers volets de cette série, par le récit de la vie du poète et des énigmes qu'elle soulève. Entretien avec Henri Guillemin par Benjamin Romieux, premier et deuxième volet diffusés pour la première fois les 8 et 9 juillet 1963.
Né à Charleville dans les Ardennes le 20 octobre 1854, d'un père officier des armées d'Afrique et d'une mère dévote et possessive, le jeune Rimbaud naquit littéralement pour chanter le monde et pour crier l'horreur qu'il en avait. En 1870, il écrivait ses premiers vers, « Ophélie, le forgeron, soleil et chair ». En 1871, c'était le bateau ivre et cette phrase bouleversante, « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant ». En 1872 et 73, Rimbaud lançait à la face du monde les fusées des illuminations et d'une saison en enfer. N'en disons pas plus. Laissons venir à nous ce Rimbaud fils du génie, ce voyant ou ce voyou, selon les uns ou les autres, ce mystique à l'état sauvage, comme dit Claudel. C'est d'ailleurs Paul Claudel qui le lança en 1912, alors qu'on ne voyait pas encore en Rimbaud le héros d'une aventure intellectuelle presque désespérée. Après commença la bataille furieuse autour de cet adolescent génial dont Henri Guillemin va retracer la mystérieuse, l'étonnante passion au cours de trois entretiens. Cette bataille autour de Rimbaud, cher Henri Guillemin, voulez-vous l'évoquer pour nos auditeurs ?
Ben voyez-vous, ça a commencé dès la mort de Rimbaud. Il avait un beau-frère posthume, Berrichon, paterne Berrichon, qui avait épousé sa sœur Isabelle. Et Berrichon s'est attelé à la gloire d'Arthur Rimbaud. Et presque tout de suite, l'ancien professeur d'Arthur, qui s'appelait Isambard, du collège de Charleville, s'est élevé avec une grande violence contre un certain nombre de vues présentées par Berrichon. Alors il y a cette première bataille, Berrichon-Isambard. La deuxième grande bataille, ça a été celle qui a été conduite par les surréalistes contre Claudel. Claudel, dans un article qui avait été immédiatement retentissant en 1912, sur Rimbaud l'avait appelé mystique à l'état sauvage. André Breton s'en est beaucoup indigné et la bataille s'est longuement poursuivie. Les uns appellent Rimbaud un voyant, les autres l'appellent un voyou. Les uns le voient comme une espèce de Satan, d'autres comme un ange. Enfin, tout récemment, c'est en 51 je crois, René Etiamble, professeur à Montpellier, a fait un livre extraordinaire et plein de verve qui s'appelle « Le mythe de Rimbaud » dans lequel il distribue pratiquement des coups de bâton à tout le monde. Et puis, il y a la querelle toujours persistante aujourd'hui des circonstances de sa mort. Isabelle, la sœur de Rimbaud, a dit que Rimbaud était mort chrétiennement, alors beaucoup de gens, surtout les surréalistes, ont dit que c'est absolument faux, elle a menti. Et enfin, Etiamble nous dit, ce n'est peut-être pas si sot, après tout, même si Rimbaud se serait converti, comme on dit sur son lit de mort, quelle importance cela a-t-il ? Il était dans le coma, et c'est bien, dit-il, de la méthode des dévots, d'annexer ainsi de force au troupeau une victime illustre qui valorisera le cheptel.
Eh bien, je crois que si l'on se bat, c'est que sans doute tout n'est pas clair, et qu'il y a encore beaucoup d'obscurité sur Rimbaud, non seulement sur l'interprétation de ses œuvres, mais quant aux circonstances mêmes de sa vie.
C'est très exact. Vous savez, il faudrait, pour tout écrivain du reste, délimiter les zones d'ombre des destins. Ben, j'en vois pas mal dans le destin de Rimbaud. Tenez, par exemple, est-ce qu'il a été, ou est-ce qu'il n'a pas été, communard ? Je sais bien qu'il y a des poèmes de lui qui sont en faveur de la Commune. On a affirmé qu'il avait rejoint les troupes de la Commune en avril 71. Est-ce sûr ? J'ai là-dessus ma petite interprétation. Je crois qu'effectivement, il a rejoint la Commune à la fin d'avril 71, mais qu'il est parti au bout de trois semaines, en somme soldat puis déserteur de la Commune. Mais ceci n'est qu'une idée à moi. C'est encore une incertitude. Deuxième incertitude. A-t-il ou n'a-t-il pas emmené avec lui à Paris dans sa seconde fugue, celle de février 71 ? A-t-il emmené avec lui une jeune fille ? Ça serait intéressant de le savoir parce que beaucoup, et vous le savez certainement, affirment que Rimbaud n'était pas du tout intéressé par les jeunes filles. Troisième obscurité, à quel moment a-t-il cessé d'écrire ? C'est tout de même vrai que Rimbaud, qui a vécu jusqu'à 37 ans, n'a été un écrivain que jusqu'à sa 22e ou 23e année à peu près. Alors on a toujours longtemps, enfin on a très longtemps affirmé que Rimbaud s'était tu après La saison en enfer, et j'ai probablement enseigné ça moi-même autrefois. Depuis 1949, une thèse qui a paru à Paris de M. Bouyane de Lacoste soutient que le poème des Illuminations n'est pas, comme on l'avait toujours dit, antérieur à La saison en enfer, mais postérieur. Donc Rimbaud aurait écrit après. Tout de même intéressant parce que on croit comprendre dans La saison en enfer que cet homme se met un baillon sur les lèvres, ben ça ne serait pas vrai, il aurait continué. Quatrième obscurité, ces errances, ces voyages en zigzag. Eh bien, il y en a que l'on peut délimiter, cerner, il y en a d'autres sur lesquels on est très mal renseigné. Ainsi, en 1875, qu'est-ce qu'il fait, Rimbaud, après avoir été rapatrié, on a la date, il a été rapatrié de Livourne le 15 juin 1975. Ben, après, on nous dit qu'à Marseille, il aurait contracté un engagement dans les troupes carlistes. Aucune preuve de ça. On nous dit qu'il aurait été débardeur sur le port de Marseille. Aucune preuve de ça. En fait, dans l'été 1975, on ne sait pas ce qu'il fait. Dans l'année suivante, 1976, on sait qu'il y a son grand voyage à Java, c'est entendu. Mais auparavant, il semble qu'il ait été à Vienne. D'autres disent en 77. On n'en sait rien. Son année 77, alors ça, obscurité complète. Je crois même pas qu'il y ait d'écrivain du 19e siècle sur lequel on soit dans une pareille incertitude pour une année de sa vie. L'année 1877, dans la vie de Rimbaud, obscurité totale. Enfin, on nous prétend aussi qu'il a été pilleur d'épaves au cap Gardafui, vous savez, à l'extrémité de l'Arabie. En 78, on nous donne même une date, novembre 78, là j'ai fait une recherche, c'est absolument impossible. Il n'a certainement pas été au cap Gardafui. Qu'est-ce qu'il a fait au juste à ce moment-là, enfin au début de l'automne 78, c'est pas clair. Alors vous voyez, grosso modo, je n'en ai donné que 4 ou 5, les preuves des obscurités assez nombreuses qu'il y a encore dans ce destin.
Mais il y a un problème capital au sujet de Rimbaud qui est la dissemblance extraordinaire entre le Rimbaud écrivain de 15 à 22 ans et le Rimbaud d'ensuite, le Rimbaud de la fin, le vrai, dirait-on, l'homme fait, lequel n'écrit plus rien et semble muet en un simple négociant.
Vous avez raison, ça c'est en effet le problème capital. Il est vrai que tout récemment, dans un article publié à Paris, François Mauriac vient de dire « c'est le type du faux problème ». Il voulait dire par là que quand quelqu'un avait une chose à dire et l'a dite, ben, il n'a plus besoin d'écrire. Seulement, le même Mauriac qui parle de faux problèmes, dans un article antérieur, il y a 2 ans, je crois, dans la table ronde, disait tout de même que le Rimbaud de la fin, ce qu'il était venu nous dire, écrit-il, lui-même l'avait oublié. Et bien, s'il l'avait oublié, c'est bien qu'il y a en effet 2 Rimbaud. Duhamel, dans ses vues sur Rimbaud, dit « il y a un abîme entre le premier, l'écrivain, et le second, le négociant ». Et je ne sais pas si Duhamel se rendait compte que, prononçant cette phrase, il reproduisait une phrase de Mallarmé, écrite peu de temps après la mort de Rimbaud en 97, et dans laquelle Mallarmé disait, comparant le premier Rimbaud au second, il disait « c'était quelqu'un qui avait été lui, mais qui ne l'était plus d'aucune façon ». Ah ben alors quoi, une espèce de cas clinique, un phénomène psychique sans exemple, quelqu'un qui aurait été saisi puis lâché par l'inspiration, possédé puis dépossédé. Quelqu'un, si j'ose dire, qu'un ange aurait saisi par les cheveux et qu'il lui avait mis sur les lèvres des paroles magiques, puis tout à coup, l'ange lâche sa prise et il tombe par terre, un triste petit Rimbaud, une carcasse assez méprisable, un garçon qui est un petit bourgeois, qui ne s'occupe que de faire de l'argent, qui a très peur de sa situation militaire, enfin quelqu'un qui écœure à ce point Étiemble, que c'est Étiemble qui, en 1936, avait écrit, en collaboration avec Yassou Gauclair, un beau livre fervent sur Rimbaud. Étiemble, maintenant, nous dit assez clairement qu'au fond, il s'est trompé sur Rimbaud. Il l'avait pris, à cause de ses violences de 18 à 20 ans, il l'avait pris pour une espèce de rebelle, de Prométhée ou de Satan. Et en regardant ce qu'est devenu le second Rimbaud, dans les lettres qu'on a de lui à sa famille, il le voit qui donne maintenant raison à sa mère, qui attache du prix aux mêmes valeurs qu'elle, pour finir ses mains jointes qu'on lui voit, dit-on, sur son lit de mort. Alors Étiemble en conclut que c'était un faux Prométhée, que c'était un Satan en simili, qui était un rebelle à la manque, et qu'il y a eu véritablement une erreur sur la personne. C'est pourquoi il emploie même le mot de mystification, comme si Rimbaud n'avait été qu'un virtuose du pastiche, en réalité assez médiocre, et un mythe, dit Étiemble, un mythe s'est créé autour de Rimbaud, un mythe, écrit-il, dont le règne prolongé stupéfiera les historiens.
Mais sur le mythe, Étiemble va même très loin. On dirait que c'est la personne même de Rimbaud qui, pour Étiemble, devient mythique. comme celle du Christ à qui des commentateurs exaltés ont effectivement comparé Rimbaud.
C'est exact, je crois qu'Étienne va beaucoup trop fort puisqu'il dit, dans sa thèse, il dit « Sur tous les événements de la vie de Rimbaud, nous sommes dans l'obscurité ». Non, c'est pas exact, nous avons beaucoup d'éléments sûrs, mais tout de même, l'idée d'Étienne est qu'il y a une interprétation délirante et générale de Rimbaud. Seulement moi, je me demande si le mot « mythe » qu'il emploie est un mot juste. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt une espèce de puissance magnétique, une fascination? Tout de même, tout le monde a lu, enfin, La saison en enfer, il y a dans ce bouquin un accent jamais entendu, il y a là quelque chose qui nous atteint au creux du cœur. Ce cri de La saison en enfer a l'air de percer le ciel. Et puis, je voudrais vous apporter très vite deux preuves tout de même, deux témoignages d'existence réelle, enfin, de vies intérieures bouleversées par la rencontre spirituelle avec Rimbaud. Il y a d'abord Claudel. Claudel s'est expliqué là-dessus 20 fois, je l'ai interrogé moi-même pour bien comprendre. Ben voilà ce qui s'est passé. Le Claudel de 18 ans, car ça se situe en 1886, était un garçon qui sortait de son éducation universitaire, qui était parfaitement incroyant, qui était moniste et déterministe, qui vivait dans cet univers qu'il voyait comme un ensemble de phénomènes et de lois, sans aucun surnaturel possible, cette idée même ne lui était pas concevable. Quand, dit-il, un jour de juin 1886, lisant une petite revue d'avant-garde d'alors qui s'appelait La Vogue, il découvre dans cette revue des poèmes attribués à feu Arthur Rimbaud, car on le croyait mort à ce moment-là, et c'était le début des illuminations. Et bien Claudel m'a dit, à peine avais-je lu ces textes-là que j'en ai senti comme une espèce de commotion de ma substance. Ce monde autour de moi m'est apparu non seulement comme un monde de phénomènes et de lois, mais aussi comme un monde poreux, mystérieux, laissant entrevoir derrière lui je ne sais quelle grande image, le sentiment du surnaturel, la sensation, me dit-il même, la sensation du surnaturel m'a été révélée par Arthur Rimbaud. Puis alors je prends un deuxième exemple, et que je choisis extrêmement différent du premier, quelqu'un qui ne travaille pas comme Claudel dans la littérature édifiante, j'ai nommé Henry Miller, l'homme des deux tropiques, vous savez, le tropique du cancer et du capricorne. Eh bien, Miller a fait, vous le savez, un petit bouquin sur Rimbaud en 1938, et ce Miller, si profondément différent de Claudel, raconte que lui aussi, à une certaine date, qui se situe, je crois, vers 1932, vivant à Paris, dans le désordre et le désespoir, a lu tout à coup du Rimbaud. Eh bien, la même commotion s'est produite. Et il dit maintenant, Rimbaud est pour moi un compagnon permanent, c'est celui qui m'a réappris l'espérance, qui a donné pour moi un sens à la vie. Rimbaud, écrit Miller, est bien plus important dans l'histoire de ma pensée que Faust ou que Hamlet, et il restera, écrit-il, il restera à la fois réel et fabuleux. Alors évidemment, il a dit fabuleux, donc Étienne le fait là-dessus un saut, et dit, c'est bien ce que je disais, fabuleux, c'est-à-dire un mythe, avouez que c'est un mythe redoutablement fort, et qui ne cesse pas de nous concerner.
Mais ne serait-ce pas un bon moyen de travail et d'intellection que d'essayer d'abord de voir si réellement les deux Rimbaud sont à ce point insuperposables? L'énigme serait déjà partiellement résolue et le mythe ramené à des proportions plus humbles si l'on pouvait réduire l'écart apparent entre le premier et le deuxième Rimbaud.
Eh bien oui, vous avez raison, on va essayer. Là, je vous demande 4 ou 5 minutes de patience parce que je vais être un petit peu didactique, mais ça sera peut-être intéressant de suivre de près les choses. Voyez-vous, je pourrais prouver, on va essayer de le faire maintenant, qu'il y a la persistance chez le second Rimbaud, j'appelle second Rimbaud le négociant, celui qui n'écrit plus, la persistance chez lui d'éléments du premier Rimbaud. Tenez par exemple le style. Vous me direz tout de suite, mais il n'y a pas de style du second Rimbaud puisqu'il n'écrit plus rien. Si, il écrit des lettres. Et dans ces lettres, on peut trouver, me semble-t-il, la trace de l'écrivain qui n'avait jamais cessé d'être. Exemple. Il est en train de traverser, enfin il vient de traverser à pied le Gothard. C'est en 78. Et arrivé à Gênes, il raconte à sa mère cette traversée. Et il lui dit, j'étais là enveloppé dans la neige, il n'y avait qu'une brume blanche et de la neige à mes pieds. Figure-toi, dit-il, un grand embêtement blanc. Embêtement blanc, c'est un mot d'écrivain. Plus tard, lorsqu'il décrit l'île de Chypre, où il travaille comme chef de chantier, il décrit ça à sa mère en une petite phrase. Oh, elle a l'air de rien cette phrase, mais je la trouve tout de même, elle aussi, signée d'un écrivain. Il dit, il n'y a sur la montagne que des sapins et des fougères. Ces mots-là, montagne, sapin, fougère, ils ont l'air comme instinctivement choisis par un écrivain à cause du rapport des timbres et de la disposition des muettes. Je dirais que je vais trop loin peut-être. Ensuite, quand il est en Abyssinie, il parle des régions où il habite. Et il a ce mot qui est encore tout à fait, à mon sens, un mot d'écrivain. Ce sont des régions désespérées. Alors là, voyez-vous, il me semble que l'on peut déjà dire qu'il y a une certaine persistance de l'écrivain dans le second Rimbaud. N'êtes-vous pas d'accord?
Oui, tout à fait.
Et bien maintenant, regardez, autre chose, dans son tempérament même. Le premier Rimbaud, le Rimbaud poète, est un homme qui se vantait d'être dur. Il disait même, en riant sarcastiquement, « Ma supériorité à moi, c'est de n'avoir pas de cœur. » Ben regardez le second Rimbaud, quand il écrit à ses parents, hein, j'entends bien sa mère et sa sœur. Comment est-ce qu'il dit au début « Ma chère maman, ma chère sœur, jamais ». Il dit toujours « Chers amis », masculin pluriel. Comment est-ce qu'il signe ? Tendrement, baiser ? Oh, absolument jamais. Il met toujours à la fin « Bien à vous ». Et quelle est la signature ? Écrivant à sa maman. Est-ce qu'il met « Arthur » ? Absolument pas jamais. Il met « A Rimbaud » ou « Rimbaud tout court ». Ben, je vois là la persistance de ce refus de l'effusion qu'il a toujours conservé. Troisième petite preuve, la violence. Vous savez assez, je n'ai pas besoin d'étendre là-dessus, sur les violences du premier Rimbaud, on en cite tant d'exemples. Cherchons si cette violence ne subsiste pas chez le second Rimbaud. Eh bien, tenez, en 86, il voit arriver l'armée égyptienne, la Harar, où il est commerçant. Et comment la décrit-il à sa mère, en une phrase? Il lui dit, figure-toi, un ramassis de chiens et de bandits. La violence est toujours là. La même année, il rompt avec ses employeurs. Il travaille pour une maison de café qui s'appelle Bardet, Vianney et compagnie à Aden. Et il ne dit pas à sa mère, je me suis brouillé avec eux. Non, il dit exactement ceci, j'ai rompu avec ces ignobles pignoufs qui prétendaient m'abrutir à perpétuité. Et puis, troisième exemple, sa mère a eu l'imprudence de lui demander, mais quel est ton état d'esprit, mon garçon, là-bas dans ces régions désespérées où tu es? Ah, il dit, mon état d'esprit, l'ennui, la rage continuelle au milieu de ces nègres aussi bêtes que canailles. Ben, je crois que la violence, comme vous voyez, subsiste. Troisième ou quatrième preuve, son côté sombre. Lorsque c'était le premier Rimbaud, l'adolescent furieux, quelqu'un qui ne l'aimait pas, le dessinateur André Gilles, l'avait baptisé un âne lugubre. Eh bien, figurez-vous que ce mot lugubre, je le trouve en 1887, donc en plein dans le second Rimbaud, je le trouve dans une lettre d'un négociant zurichois qui s'appelait Ilg, qui vivait lui aussi en Abyssinie et qui était en rapport d'affaires avec Rimbaud. Ilg lui écrit un jour de 87, ce que je voudrais, cher ami, c'est tenter de vous ôter vos idées lugubres. Le même mot. Et puis j'ai là, dans la tête, trois citations des lettres privées, des lettres intimes de Rimbaud à sa mère, où il lui dit « Ma vie est un cauchemar ». Un autre jour, s'élevant à une espèce de philosophie de la vie, il lui dit « L'homme compte souffrir les trois quarts de sa vie pour se reposer le quatrième quart, et la plupart du temps, il crève de misère en chemin sans plus savoir où il en est de son plan. » Puis dernière citation, « Notre vie est une misère sans fin. Pourquoi donc existons-nous ? » Donc persistance, je crois, de son côté lugubre. Enfin, l'errant. Le premier Rimbaud, le poète, on nous dit, c'est un mot de Verlaine, c'était l'homme aux semelles de vent, celui qui courait en zigzag dans le monde entier. Tandis que, dit-on, quand on lit sa correspondance à sa mère, on voit que le second Rimbaud est un homme assez installé, qui ne bouge guère de son harare, et qui surtout n'a qu'une idée, c'est de rentrer au pays, comme un colonial enrichi, pour s'installer, pour s'asseoir, pour devenir, vous savez, un de ces assis dont il avait parlé autrefois avec tant de violence. Eh bien, c'est pas vrai. Si on lit bien la correspondance, on s'aperçoit que, non pas deux fois, mais 10 fois, il dit à sa mère, s'il y a une chose qui m'est devenue impossible, c'est la vie sédentaire. Et même, songeant à se marier, il demande à sa mère de lui trouver, oh, il n'est pas difficile, de lui trouver quelqu'un, une veuve par exemple, qui accepterait de l'épouser, et il dit à sa mère, ne comptez pas que même marié, cela changerait rien à mon humeur vagabonde, on ne me verrait pas 2 mois de suite à la même place. Preuve donc, semble-t-il là encore, de la persistance de son même sentiment d'errant, et Verlaine avait donc toujours raison, le Verlaine qui avait écrit en 1875 « La malédiction de n'être jamais là, suitez pas sur le monde où l'horizon t'attire ». Bon, j'espère que je ne suis pas trop ennuyeux, mais écoutez maintenant, on va faire un essai inverse. Je viens de vous montrer la persistance chez le second Rimbaud d'éléments du premier. Il serait intéressant maintenant, je crois, d'essayer de découvrir si on n'aperçoit pas dans le premier Rimbaud des éléments préexistants que l'on assigne d'habitude au second Rimbaud seulement. Exemple, son côté famille. On répète que Rimbaud était très brutal avec sa mère, qu'il ne l'aimait pas, qu'il parlait d'elle avec une violence extrême. C'est vrai. Et on nous dit, ah, comme il a changé à la fin de sa vie, on le voit qu'il crie « je gentil » à sa maman. Par exemple, dans une lettre de 82, il lui dit, elle lui avait reproché, je crois, de ne plus écrire, enfin de l'oublier. « Comment vous oublierai-je? Je pense à vous, je ne pense qu'à vous. » Il avait remis à sa mère 2000 francs. Ce n'était pas une somme, en fait, même quelque chose. Il avait mis 2000 francs qui lui appartenaient. Et comme sa mère a des difficultés d'argent, il lui dit « Prenez, tout ce qui est à moi, c'est à vous. » Alors on en conclut, comme il a changé, il n'était pas comme ça autrefois. Eh bien, est-ce que c'est vrai? Je vais vous apporter d'abord une lettre du 5 septembre 1870. Donc c'est à fond le premier Rimbaud, ça, 5 septembre 1870. Il vient de se faire incarcérer à la prison de Mazas, à Paris. C'est pas bien grave, il avait voyagé simplement sans billet, alors on l'avait coffré. À peine est-il dans sa prison qu'il écrit à son professeur Isambard, dont je parlais tout à l'heure, Isambard, professeur de Charleville, et il lui dit, dès que vous recevrez cette lettre, écrivez, écrivez, je vous en supplie, à ma pauvre mère, pour la consoler. Alors voyez devant les camarades, et dans ses textes, il parlait de sa mère furieusement et mal, mais dans l'intimité, enfin quand c'était le Rimbaud réel, il en parlait autrement. Et puis on n'a pas assez remarqué que Rimbaud, dans la pire période de ses aventures avec Verlaine, nous y reviendrons, est revenu tout de même deux fois au foyer, et à des dates que je trouve spécialement choisies pour faire plaisir à sa mère. Il revient à Noël 72, et il revient à Pâques 73. Et puis, on ne remarque pas non plus que Rimbaud a fait venir, auprès de lui, a désiré qu'il vienne, sa mère, à Londres au début de 74, à Milan au milieu de l'année 75. D'ailleurs, cette mère, c'est une tradition aujourd'hui dans les biographes de parler d'elle avec dureté.
Oui,
comme
on, la charge.
Pas, on la charge, enfin, comme une femme très dure. Alors que si on l'étudie de près, et en particulier une admirable lettre d'elle du 6 juillet 73 à Verlaine, c'était sans doute une femme devoir, une femme aussi dure pour les autres que pour elle-même, mais quelqu'un d'infiniment noble. La vieille Madame Rimbaud me ferait penser à une vieille écube. Alors voyez, préexistence tout de même du côté famille chez lui. Deuxième chose, préexistence aussi chez lui de la charité, ce que j'appelle la tendresse humaine. Là encore, on nous affirme que c'est dans la deuxième partie de sa vie que ça serait manifesté. Isabelle, sa sœur, nous a raconté là-dessus bien des choses un peu exagérées. Vous savez, Isabelle travaille dans la dorure et dans le bleu quand elle parle de son frère. Mmh. Elle nous dit que, par exemple, lorsqu'il a été obligé de quitter pour sa santé l'Éthiopie en 91, il était tellement aimé que tous les nègres pleuraient en le voyant partir et que le désert en ruisselait de larmes. C'est une plaisanterie. Mais son employeur, qui s'appelait Bardet, qui était un homme d'affaires et qui n'a aucune raison de nous duper, quand on l'a interrogé là-dessus, a dit oui. Monsieur Rimbaud avait une charité aussi large que discrète. Bon, alors c'est entendu, il était charitable à la fin de sa vie. Mais au début, ben au début aussi. Tout le monde connaît son poème des effarés. Qu'est-ce que c'est les effarés? Vous savez, ce sont 5 petits gamins qu'il a regardés dans une rue, penchés devant le soupirail d'un boulanger, regardant comme il dit le boulanger faire le lourd pain blond. Et ils sont tellement forts, accroupis, que leur culotte crève et que leur chemise tremblote au vent d'hiver. Et ils les appellent ces 5 petits Jésus pleins de givre. Ce n'est pas la marque d'un cœur dur. Quand il parle dans un autre sonnet, le dormeur du Val, de ce jeune soldat tué, là aussi, il est évident que son cœur se serre. Et dans un autre sonnet qui s'appelle le Mal, il représente les vieilles femmes autour de Charleville qui, parce que la guerre est déclarée, viennent se presser dans les églises apportant, nouées dans leur mouchoir, dit-il, une pièce de 10 centimes qu'elles mêlent dans le tronc pour supplier le ciel que leur fils soit épargné, et il les représente ramassées dans l'angoisse et pleurant sur leur vieux bonnet noir. Ben là encore, c'est la phrase d'un cœur qui n'est pas de pierre. Et enfin et surtout, dans la saison en enfer, ça n'est pas 2 fois, c'est 5 ou 6 fois qu'il y a assez mystérieusement le mot de charité, comme si ce mot avait pour lui je ne sais quelle valeur mystérieuse, à ce point que, dans le texte peut-être le plus célèbre de la saison en enfer, où il se représente à la poursuite de la clé du festin ancien, c'est-à-dire la clé du paradis perdu, il écrit « La charité est cette clé ». Et puis troisième préexistence, les larmes, le Rimbaud de son lit de mort, du lit de mort, il pleure, il sanglote. Alors on nous dit, ah, quelle différence, quelle distance tout de même entre l'adolescent, le furieux, l'homme aux dents serrées. Il n'avait pas toujours les dents serrées. Preuve. Encore dans la saison en enfer, faisant parler Verlaine, il dit, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient. Quoi donc? Le bétail de la misère, enfin, les épaves humaines de Londres. Et puis dans le bateau ivre, mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes. Et puis, dans un texte moins connu de lui, qui s'appelle « Les déserts de l'amour » et avec un accent presque semblable, « Vrai, cette fois, j'ai pleuré plus que tous les enfants du monde. » Ben, voyez, j'ai fini ce grand topo de professeur, mais il me semble qu'on voit se reconstituer, se recoller les deux Rimbaud, et le personnage conserve son identité.
Et les circonstances de sa mort, sur lesquelles on se querelle si fort, n'est-il pas possible aujourd'hui d'y voir clair?
Eh bien si, je crois vraiment que là, on peut être en sécurité. Je vais vous expliquer. La difficulté, c'est qu'il n'y a qu'un témoin. Alors on nous dit toujours « testis unus, testis nullus ». Et puis que ce témoin, c'est Isabelle, sa sœur, et que c'est un témoin suspect. Pourquoi? Ben, je viens de vous le dire, Isabelle est quelqu'un qui a entouré son frère de respectabilité. Elle a raconté des blagues sur lui, sûrement. peut-être sans vouloir mentir, mais par exemple quand elle nous raconte que son frère était si indifférent à la gloire littéraire qu'il n'a jamais voulu rien imprimer, ben si, il a voulu imprimer, il a fait imprimer des choses. Elle nous dit aussi que dans ses classes, il avait été formidable, il avait été tout le temps le premier. Alors naturellement, les érudits, qui sont des gens odieux, se sont précipités sur les palmarès de Charleville pour voir s'il avait tout le temps été si étonnant. Ben, c'est pas vrai, il a été seulement bon dans sa dernière année, puis auparavant, c'est un élève médiocre. Puis elle n'avait fait que ça encore, cette Isabelle, mais elle a triché, parce que quand elle a confié à son mari Berrichon les lettres qu'elle avait reçues de son frère, elle les a recopiées avant de les donner à son mari. C'était pas gentil, elle aurait dû lui donner les originaux, non, elle les a recopiées. Et quand elle recopiait, elle truquait. Pas sur des choses graves, c'était bête. Par exemple, il ne lui plaisait pas de dire que son frère vendait des pots, ça ne lui paraissait pas assez noble. Alors elle mettait qu'il vendait de l'or et de l'ivoire, c'était plus reluisant, si j'ose dire. Et puis elle triche sur des questions d'argent, parce que vous savez, Isabelle, c'est quelqu'un qui a le respect des gens de bien. Et les gens de bien, par définition, sont ceux qui ont du bien. Alors il fallait donc que son frère ait beaucoup de bien. Alors quand il met qu'il emporte dans sa ceinture toute sa fortune qui s'élève, écrit-il, à 10 000 francs, ben Isabelle corrige, elle met 40 000 francs, parce que c'est plus convenable. Bon, alors elle n'est pas rassurante, Isabelle. Cependant, j'ai tout de même envie d'écouter sa déposition. Pourquoi ? Primo, parce qu'elle a bien connu son frère. Il y a des érudits mal renseignés qui nous disent, après tout, il ne l'a vu que sur son lit de mort. C'est pas vrai. Elle a vécu d'abord près de lui jusqu'à sa 13e année. C'était une gamine, ça compte pas. Mais ensuite, elle l'a vu revenir à plusieurs reprises au Bercail. Elle l'a regardé de près pendant des mois. Par exemple, pendant l'hiver 75-76 et de nouveau en 79-80. Cette grande jeune fille, puisqu'elle allait avoir 20 ans en 90, a regardé son frère vivre. En outre, si Arthur avait considéré sa sœur comme une dévote obtuse, si elle l'embêtait, je comprends bien qu'on ne tienne pour rien sa déposition. C'est justement le contraire qui s'est produit. Arthur, qui était un homme défiant, n'avait confiance qu'en elle, n'aimait qu'elle. Et quand il s'est trouvé si malade en 91, il l'a suppliée de ne pas se marier, elle avait une demande en mariage à ce moment-là, c'était temps, elle avait déjà 31 ans. Eh bien, pour faire plaisir à son frère, elle ne s'est pas mariée et elle ne l'a plus quittée pendant 6 ou 8 mois. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Mais surtout, et voilà là-dessus sur quoi j'insiste, le document de base qui nous permet de savoir la mort de Rimbaud, c'est pas un article d'Isabelle. C'est pas un écrit public. Si c'était pour la montre, on pourrait dire que c'est suspect. Il s'agit d'une lettre absolument privée qu'elle avait écrite le mercredi 28 octobre 1891 à sa mère, de l'hôpital de la Conception à Marseille où elle voyait son frère en train de mourir. Et c'était une lettre tellement secrète, vraiment tellement intime, qu'elle avait même refusé de la laisser publier par son mari, le Berrichon, dont je l'ai beaucoup parlé. Cette lettre, elle n'a accepté de la révéler qu'en 1912, à Claudel, parce qu'était Claudel, un personnage considérable, et encore ne l'avait été autorisée qu'à en reproduire une partie. Et la lettre n'a paru qu'après la mort d'Isabelle dans ses reliques, je crois, oui, ça s'appelle reliques, en 1922. Elle est morte en 1917. Cette lettre que Claudel a eue entre les mains, et j'ai interrogé Claudel, il m'a dit « Oui, je me souviens bien, une vieille lettre avec son timbre, avec son papier jauni. » Cette lettre, c'est le type du document irréfutable. On ne peut pas la mettre en question. Alors voyez-vous, l'affaire grave là-dessus, c'est que beaucoup de gens, à propos de la mort de Rimbaud, disent et répètent, sans avoir vérifié les dates, une chose qui est grave parce qu'elle est inexacte. On nous dit « Rimbaud a accepté de se convertir à l'agonie dans les dernières heures de sa vie ». Vous savez, les dates en histoire littéraire, c'est extrêmement important. Regardons bien la chose. C'est le 10 novembre 1891 que Rimbaud expire, jeudi 10 novembre, et c'est le 25 octobre qu'il se confesse et qu'il demande la communion. Il ne s'agit donc pas de quelques heures, il s'agit de 16 jours. 16 jours pendant lesquels, je le sais bien, sa lucidité va diminuer, mais quand il appelle les aumôniers, c'est un homme parfaitement lucide. Et je voudrais terminer ce premier entretien par la lecture précisément de quelques phrases de cette lettre capitale écrite de Marseille, mercredi 28 octobre 1891, par Isabelle à sa mère. « Ma chère maman, dimanche matin, après la grand-messe, il semblait plus calme et en pleine connaissance. L'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser, et il a bien voulu. Quand je suis rentré près d'Arthur, il était très ému, mais il ne pleurait pas. Il était sereinement triste, comme je ne l'ai jamais vu. Il me regardait dans les yeux, comme il ne m'a jamais regardé. Il a voulu que je m'approche tout près. Il m'a dit, « Tu es du même sang que moi. Crois-tu, dis, crois-tu » J'ai répondu, « Je crois. D'autres plus savants que moi ont cru et croient. Et puis je suis sûr à présent, j'ai les preuves, cela est. » Il me regardait toujours, avec le ciel dans les yeux. Il a tenu à m'embrasser. Puis il a dit, « Nous pouvons bien avoir la même âme, puisque nous avons un même sang. Tu crois alors? Et j'ai répété, oui, je crois, il faut croire. Alors il m'a dit, il faut tout préparer dans la chambre et tout ranger. Il va revenir avec les sacrements, je suis donc bien malade. Il était anxieux, mais pas désespéré comme les autres jours. Et je le voyais très bien qu'il désirait ardemment les sacrements et la communion surtout. Depuis, il ne blasphème plus jamais. Il appelle le Christ en croix et il prie, oui, il prie, lui.
Cher Henri Guillemin, dans un premier entretien, vous avez évoqué la vie d'Arthur Rimbaud, vous avez établi le compte des énigmes qu'elle soulève, bref, vous avez déblayé le terrain. Le terrain ayant été quelque peu déblayé, donc, peut-être est-il possible maintenant d'aborder de face le cas Rimbaud.
Eh bien, il y a une remarque liminaire que je voudrais d'abord présenter. Voyez-vous, il y a des choses dont on nous dit qu'elles nous crèvent les yeux, et je prends l'expression dans son sens immédiat. Ce qui nous crève les yeux nous rend aveugles. Eh bien, il y a ceci qui nous crève les yeux quand on prend dans sa main l'œuvre de Rimbaud, cette œuvre qui est immense comme importance, mais qui est d'un très faible volume. Ce qui nous crève les yeux, c'est l'obsession du problème religieux là-dedans. Tenez, rien que les titres nous l'indiquent. Voyez ces poèmes qui s'appellent « Les premières communions »,« Les pauvres à l'église », »,« Les sœurs de charité », »,« Le mal »,« Un cœur sous une soutane », La saison en enfer, tout ça c'est des titres religieux. Rimbaud, c'est pas quelqu'un qui habite un univers désencombré, comme par exemple celui de Laclos et ses personnages des liaisons dangereuses, ni non plus un univers réduit à ses seules apparences, comme celui du Gautier des Émaux et Camées. Si j'avais à comparer Rimbaud à quelqu'un, ce serait plutôt à ce Maurice de Guérin, qui se définissait, vous le savez, un feu qui brûle à l'horizon entre deux mondes. Rimbaud, c'est quelqu'un que Dieu ne laisse pas tranquille. Et Dieu, pour Arthur Rimbaud, c'est aussi quelqu'un. Seulement attention, c'est quelqu'un d'odieux. C'est une présence intolérable.
Bon, mais cette grande colère, alors d'où vient-elle?
D'où elle vient? Je trouve trop courte l'explication, assez fréquente, par l'emportement d'une créature contre un maître qui contrarie nos convoitises et qui dérange nos assouvissements. Ceux que Dieu gêne sur ce point, ils ont l'habitude de résoudre le problème par les commodités du scepticisme ou par la répudiation discrète et pratique d'un législateur fastidieux, à moins que, comme Diderot, ils ne préfèrent recourir au gros rire jubilant de l'athéisme ou encore, comme Vigny, à des airs pincés, des mines renchéries contre ce Dieu qui s'était toujours, ou bien encore par une espèce de longue gymnastique obscure pour se persuader que l'infamie est honorable et que la veulerie est la forme exemplaire du courage, comme André Gide. Non, il ne s'agit pas de ça, cher Rimbaud. Elle est beaucoup insuffisante, beaucoup trop peu claire, l'explication par l'obstacle à l'appétit sexuel. Il y a un critique que je ne veux pas nommer, qui, commentant un poème de Rimbaud intitulé « Soleil et chair » et sans doute sur la foi du titre, nous dit que c'est un poème plein de frénésie sexuelle. Bah, c'est avoué qu'il ne l'a pas lu. C'est un drôle d'écrit, en effet, « Soleil et chair ». C'est une vision mythologique. Évidemment, avant de le lire, on peut se persuader que le jeune Rimbaud évoquant un temps mythologique, un temps plein d'Oaristis, s'imagine toutes sortes d'amours débridés. Ben, c'est justement le contraire. C'est assez curieux de penser que ce Rimbaud de 19 ans, écrit en parlant de l'homme mythologique tel qu'il l'imagine alors, l'homme était, dit-il, il écrit ça, l'homme était chaste et doux. Et quant à la femme, il la voit comme une espèce de messagère de l'infini avec sa beauté dont... dit-il, qui a pour mission, dit-il, d'élever l'âme humaine de la prison terrestre à la clarté du jour. Eh bien ça, c'est écrit par lui en mai 1870, et juste un an plus tard, en mai 1871, le voilà qui écrit l'épouvantable poème que vous savez qui s'appelle « Les petites amoureuses », précédé de cette horrible Vénus à la Diomène avec sa fistule à l'anus. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? D'un côté, vous voyez, il y avait... la femme messagère de l'infini, de l'autre côté, il y a la dérision vociférante jetée sur le corps féminin. Quoi entre les deux? Quoi, à mon avis, la traversée d'une expérience banale. Comme si l'âme humaine, comme si l'âme de Rimbaud, prise au piège de la beauté, et ayant vu où conduit, dans le fait et dans l'acte, ce transport qui nous semble dépasser le monde et nous faire accéder à l'éternité, comme si cette âme, tout à coup, vomissait de dégoût dans la convulsion de son détrompement. C'est quelqu'un qui a l'air de nous dire « c'est donc ça l'amour » et tout de suite après « c'est donc ça la vie ».
Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste cette fureur de Rimbaud ?
Ce que c'est, voyez-vous, je pourrais la définir par un mot que j'appellerais l'intolérance. Quoi donc ? Ce désenchantement, ce détrompement, cette constatation de la distance amère qui sépare ici-bas l'idéal et le réel dans un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve, tout ça, sur la plupart des gens, ça glisse. Sur Rimbaud, ça ne glisse pas. Ça lui donne une espèce de spasme d'horreur. Alors tout ce qu'il était précédemment, tout ce petit enfant fervent dont on sait qu'il l'a été, tout ce goût de ce qu'il appellera plus tard les nobles ambitions en ricanant, tout ce goût de l'innocence, un mot qui le hante, tout ça lui paraît maintenant comme une affreuse dérision, comme une épouvantable blague. Et quand, par surcroît, ce garçon de 18-19 ans voit sous ses yeux la guerre, ces atrocités, quand il voit par exemple la commune voisine de son Charleville, Mézières qui brûle sous les bombes, et ça a l'air, disait-il, d'une tortue dans du pétrole. Quand il regarde dans ce petit vallon creux et frais, lorsqu'il regarde dormir le petit soldat tué, la nuque dans le cresson, lorsqu'il voit tout ça, et qu'or par sur quoi, encore en plus, il assiste à la répression de la commune, cette commune vers laquelle toute son âme s'était jetée, lorsqu'il voit les gens de la commune qui étaient après tout des gens qui désiraient simplement vivre dans un univers plus juste, pouvoir élever leurs enfants, lorsqu'il les voit sous la mitraille des Versaillais, en proie à la vengeance des nantis, alors tout flambe en lui. Et le mal pour lui, le mal alors, comme il le dit dans son sonnet, ce n'est plus ce que désignent les puérilités du catéchisme. Le mal aux yeux de Rimbaud, il est dans l'inertie de ce Dieu qui sans doute existe, mais qui assiste, muet et absolument impassible, à toutes ces horreurs d'une création dont il est pourtant responsable. Ce Dieu qui écoute Béat, écrit Rimbaud, Béat, le gros sou de la vieille maman qui laisse tomber son sou dans le tronc en demandant que le fils soit épargné, alors que sans doute et de préférence le garçon sera tué. Alors, au moins la révolte contre ce potentat monstrueux, la révolte contre ce qu'il appelle l'absurdité de la prière. Vous savez, il y a un texte de Louis où il parle de ces imbéciles qui vont bavant leur foi mendiante et absurde, révolte contre le Christ, dont il dit « Ô Christ, éternel voleur des énergies ».
Et il avait alors 17 ans. Mais comment était-il alors, physiquement et psychiquement ?
Regardons-le bien. Nous avons là-dessus d'abord des dessins. Vous savez, il y a le fameux coin de table. Et puis, il y a des témoignages qui sont précieux. Il y a Forain, le dessinateur Forain, qui nous dit « Il avait l'air d'un grand chien ». Et puis, il y a Mallarmé, qui l'avait vu une ou deux fois. Et choisissant ces mots, vous verrez tout de suite pourquoi. Mallarmé nous dit « Il avait l'air d'une grande fille du peuple mauvaisement poussée, avec de grosses mains rouges de blanchisseuse ». Et puis il y a surtout un texte qui est peu connu, on ne l'a sorti qu'il y a quelques années, un texte d'un poète bien oublié qui s'appelait Valade, et qui, venant de rencontrer Rimbaud, écrivait à un autre poète qui s'appelait Blémont. Il lui écrivait ça le 5 octobre 71. Il lui dit figure-toi un môme qui vous fascine et qui vous terrifie, plein de puissance et de corruption. Qu'est-ce qu'il y avait en effet derrière ce front pur qu'il avait, derrière ses yeux surtout, des yeux extraordinaires qui étaient bleus pervenche, avec autour de l'iris une bague bleue plus sombre. Derrière ses yeux d'innocence, qu'est-ce qui se cachait, que ne voyaient pas les contemporains? Ce qui se cachait, une rage, un tremblement de rage. Lui-même l'écrit dans un brouillon de la saison en enfer, il dit « La rage du désespoir m'emporte contre tout, la nature, les objets, moi que je veux déchirer ». Pour comprendre son état d'esprit, voyez-vous, il faut se dire à peu près ceci. Rimbaud est un garçon qui se dit, puisque c'est ainsi, les réalités de la vie, comme on dit, puisque c'est ça la vie, puisque c'est ce mélange d'immondices et d'atrocités, alors il faut jouer le jeu à fond. Il ne faut pas tricher. Il faut l'assumer totalement, cette ignominie. Il faut s'y rouler dans cette abjection et que le langage même s'emplisse de ce stupre à quoi se résume notre condition. C'est pourquoi il écrit carrément à son professeur Isambard, dont nous parlions dans le premier entretien, il lui écrit carrément « Je m'encrapule le plus possible ». Et je pense qu'Isambard a dû recevoir ça comme un choc au cœur. Mais, attention, quand il lui dit « Je m'encrapule », il a une idée derrière la tête. Il poursuit là je ne sais quelle sombre ascèse. Il croit que dans ce voyage au bout de la nuit qu'il essaye d'entreprendre, il arrivera tout de même à, comme il le dit sous une forme abrupte et elliptique, il arrivera à savoir pourquoi, c'est-à-dire à connaître le secret de l'iniquité. Et sa doctrine, qu'il a expliquée longuement dans une lettre à un camarade qui s'appelle Demny, dans une lettre qu'on appelle la lettre du voyant, c'est précisément la doctrine de la voyance. Alors là, je vous ai apporté le texte exact. Je voudrais pouvoir vous le dire, je crois que je le sais absolument par cœur. Il dit ceci, Le poète doit se faire voyant. Il se fait voyant par un long, lent, raisonné dérèglement de tous les sens. Alors il devient le grand malade, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Et quand, dit-il, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables.
Mais tout cela ne peut aller, semble-t-il, sans un profond tumulte. Ou bien Rimbaud s'installe-t-il en paix dans cet engrappulement volontaire ?
Oh, absolument pas, bien sûr, et vous avez complètement raison. C'est un garçon qui est plein de déchirements et de divorces. Écoutez ça, c'est une lettre qui est absolument contemporaine de celle du voyant. La lettre du voyant est du 13 mai, je crois. Et voilà ce qu'il écrit le 15 mai, dans la fameuse lettre de l'encrapulement. Voilà ce qu'il écrit à son professeur Isambard. « Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège. Tout ce que je peux inventer de bête, de sale, de mauvais, en parole et en action, je le leur livre. On me paie en boc et en fille. » Vous avez entendu ? Bête, sale, mauvais. Les trois mots sont là, ils sont noirs sur blanc avec leur totalité de signification. Autrement dit, je choisis le mal et je sais que c'est le mal. Et bien, le même garçon qui écrit ça, dans la même lettre, à quelques centimètres de distance dans cette lettre, avoue son malaise et son besoin immédiat de se disculper. Car il écrit exactement ce qui suit. Ce n'est pas du tout de ma faute. J'ai tort de dire « je pense ». Je devrais dire « on me pense ». « Je » est un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire « j'ai un autre » ? Ça veut dire le vrai Rimbaud, le Rimbaud du fond. Il est commandé, il est aimanté, il est dominé et dirigé par une force supérieure à lui, je ne sais quel Satan, je ne sais quel démon, qui le pousse par les épaules, et l'autre Rimbaud, le Rimbaud du fond, ne peut que suivre et obéir, et se taire. Les deux Rimbaud sont étroitement mêlés, sont imbriqués dans son aventure avec Verlaine.
Impossible en effet de passer sous silence ce drame assez horrible. Comment le voyez-vous ?
C'est une sombre histoire. Elle a été longuement niée. Il y a encore aujourd'hui des gens qui soutiennent que les rapports de Verlaine et de Rimbaud ont été des rapports d'innocence littéraire. C'est absolument faux, on le sait trop. Tout est clair depuis la publication, en 1932 je crois, des papiers du procès de Bruxelles. Vous savez que Verlaine a tiré sur Rimbaud, qu'ils ont passé en jugement à Bruxelles. On a publié les pièces du procès, c'est d'une clarté absolue. D'autre part, il n'y avait déjà qu'à lire, qu'à bien lire, enfin sachant ce qu'on lit, les textes qui s'appellent « Délire » dans La saison en enfer, ou ceux qui s'appellent « Vagabonds » dans Les illuminations. Tout était parfaitement indiqué. Oui, c'est une histoire d'homosexualité. Mais ce que je voudrais dire ici, et qui est fort important, c'est que dans ce jeu assez atroce, Rimbaud mène le jeu. C'est lui, notez-le bien, c'est lui qui s'appelle l'époux infernal. Et Verlaine n'est que la vierge folle. Verlaine suit. Verlaine est emporté comme dans un vertige. Dans une des pièces, justement, qu'on a retrouvées au procès de Verlaine, qui était un petit poème, de lui-même, Verlaine, poème que Rimbaud avait dans son portefeuille. Le poème qu'on appelait le « Bon disciple », il y a ceci, « Je suis élu, je suis damné, un grand souffle inconnu m'emporte ». Il y a cette différence entre Verlaine et Rimbaud dans leur aventure, que Verlaine cherche une volupté, tandis que Rimbaud poursuit, avec frénésie, une expérience noire. Et c'est frappant de le voir dire à Verlaine des choses que Verlaine ne comprend pas. Si vous vous reportez au texte de La saison en enfer, on le voit qui ricane parce que Verlaine lui dit « je te comprends », comme s'il pouvait le comprendre. Il lui dit par exemple qu'il veut changer la vie.
Oui, changer la vie, c'est un mot révélateur.
C'est un mot surtout révélateur quand on s'aperçoit, et ce n'est pas une gloriole de ma part, je l'ai découvert absolument par hasard, que c'est une citation. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, des choses qui vous crèvent les yeux, eh bien ça aurait dû me crever les yeux que c'était un texte écrit en italique. Ces mots sont en italique dans le seuil de La saison en enfer, ce qui signifie que c'est une citation. Une citation de quoi ? Eh bien, tout simplement de la première épître aux Corinthiens. Il s'agit de l'autre vie, il s'agit de l'autre monde avec la résurrection des corps, il s'agit des corps glorieux. La vie, écrit saint Paul, ne sera pas ôtée mais changée. Eh bien, c'est cette espèce d'espoir désespéré, enfin d'espoir frénétique, d'une vie où les corps seront là mais ils ne seront plus soumis aux assujettissements sordides d'ici-bas. C'est ça qui est au fond de La saison en enfer. Avec Verlaine, entre ce qu'ils appellent leur pénétrante caresse, ils parlent du Christ. Nous en avons la preuve dans un texte curieux de Verlaine, pas assez analysé, qui s'appelle « Crimen Amoris ». « Crimen Amoris », crime d'amour, a été écrit par Verlaine tout de suite après son emprisonnement, quand il était dans sa prison cellulaire de Mons. Il évoque là ce qu'était son temps mystérieux et sombre avec Rimbaud. Et il évoque ce Christ qui, dit-il, crut bien faire. Oh, bien entendu, c'était un homme, c'était pas un dieu, ça n'a aucun sens pour Rimbaud ni pour Verlaine de cette époque, mais c'était tout de même quelqu'un qui avait cru bien faire. Et nous savons aussi qu'à ce moment-là, au pire de sa période avec Verlaine, Rimbaud écrivait des textes qui ont été longtemps ignorés, sauf un qui avait été retrouvé en 1912 et qui s'appelait Bethsaïda, Bethsaïda, la piscine aux Saint-Galeries. Et voilà qu'en 1947, c'est M. Matarazzo qui a retrouvé, et M. Bouyane de Lacoste qui a publié en janvier 1948, deux autres textes, jusqu'alors inédits. L'un s'appelle « À Samarie », l'autre s'appelle « En Galilée », et on voit très bien qu'ils forment une unité avec Bethsaïda, publié depuis 1912. Et ce sont quoi? Ce sont des illuminations, ce qui veut dire en luminure, en marge des évangiles de Saint Jean. Par conséquent, au moment même où Rimbaud conduit son expérience affreuse avec Verlaine, il est en train d'écrire des textes de couleur religieuse. Cette obsession religieuse, je la trouve dans sa fameuse lettre à laquelle je fais allusion tout à l'heure, la lettre de l'encrapulement. Vous savez, il dit à son professeur Isambard, qui en a le souffle coupé, il lui dit qu'il se fait entretenir par tout le monde, et il ajoute tout à coup, en latin, au milieu de cette lettre, « Stat mater dolorosa dum pendet filius » se tenait debout la mère lorsque le fils pend à la croix. Eh bien, ce qui me frappe encore davantage, ce n'est pas tellement qu'il ait osé évoquer sa mère en se moquant d'elle parce qu'elle pleure de voir son fils ainsi s'engloutir. Ce qui me frappe, c'est qu'il le fasse en ces termes, en latin, avec cette référence évangélique où se trahit une fois de plus son obsession. Dans le texte « Délire » de la saison en enfer, Rimbaud fait dire à Verlaine, parlant de lui, Rimbaud, « Parle-t-il à Dieu ? » Mais oui, certainement. Quelqu'un qui parlait à Dieu quand ce ne serait que pour lui demander, comme furieusement, de ne pas exister.
Mais antérieurement à sa rencontre avec Verlaine, Rimbaud n'est-il pas toujours dans ses textes plein de griefs et de blasphèmes?
C'est ce que l'on dit, et c'est ce que j'ai longtemps enseigné moi-même quand j'étais professeur. Eh bien, c'est pas vrai. Vous savez, c'est un travail qu'il faut toujours faire sur tous les écrivains. Je l'avais fait sur Victor Hugo l'année dernière. Il faut lire ligne à ligne tous les textes. C'est difficile de lire des poètes ligne à ligne parce que vous connaissez le fonctionnement de notre attention et il fonctionne par éclipse. Alors, quand on lit des vers, le second vers, en réalité, il passe sur nous. Il faut au moins lire deux fois chaque texte pour l'avoir pleinement présent à l'esprit. Et bien, quand j'ai tout relu les poèmes de Rimbaud, j'entends par là ces poèmes réguliers ou semi-réguliers, ceux qui ne sont pas des poèmes en prose, comme La Saison, comme Les Humiliations, les choses antérieures. Quand on lit ces poèmes, et qu'on fait abstraction de tout ce qu'on a su avant, quand on essaye de voir ce qu'ils veulent dire, on s'aperçoit que dans deux cas au moins, il n'y a plus ce ton du grief et du blasphème, mais un autre accent. Et bien voilà mes deux preuves. Le premier s'appelle « Le cœur volé ». C'est un poème difficile, qu'il faut lire plusieurs fois pour essayer de bien comprendre. Et c'est un poème qui a changé de titre. Il s'est appelé d'abord « Le cœur du pitre », puis « Le cœur supplicié », et enfin « Le cœur volé ». On en connaît la date. Il est écrit à la fin d'avril ou au début de mai 71, et je crois bien qu'il y fait allusion à sa tentative de vie militaire, militaire avec les soldats de la Commune, car il est question de son cœur brouillé, noyé de caporal. Le caporal, c'est le tabac de troupe. Et quand il dit aussi « Mon triste cœur bave à la poupe ». À la poupe de quoi, bateau? Alors que Rimbaud ne s'était jamais embarqué alors. Probablement à la poupe du bateau de Paris. Fluctuat nec mergitur. Alors, dans ce cœur volé, qui est un poème complexe et difficile, on le voit qui se représente dégoûté, écœuré, écœuré de lui-même, écœuré du jugement que les autres portent sur lui. Et puis au milieu, il y a ce vers. « Ô flot, prenez mon cœur, qu'il soit lavé. » Ben, quand on lit bien ce vers, chante immédiatement dans votre esprit le ressouvenir d'un autre texte de lui qui est postérieur de 2 ans, en prose celui-là, et qui est dans La Saison en enfer. Et le voilà, ce texte de La Saison en enfer. « Sur la mer que j'aimais, comme si elle eût dû me laver d'une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice. » Voyez, par deux fois, le flot, la mer, peut le laver d'une souillure. La mer, dans l'œuvre de Rimbaud, a une double et permanente signification. C'est tantôt une signification d'éternité et tantôt une signification de pureté. Et pourquoi pureté? La solution de l'énigme, elle nous est apportée par un vers du bateau ivre, où il représente les pieds lumineux des Maries sur le mufle des océans. Marie, Marie Stella, l'étoile de la mer, Maria, comme disait Victor Hugo, Maria, ce mot immense qui signifie à la fois Marie et les mers. Et le deuxième texte du Rimbaud poète, qui n'est plus un texte de blasphème, c'est l'extraordinaire petit poème qui s'appelle « Honte ». honte a été situé par les érudits, je pense à Mouquet par exemple, qui est un admirable chercheur, qui a fait l'édition critique de la Pléiade. Mouquet le situe au tout dernier moment des poèmes en prose, des poèmes réguliers de Rimbaud, c'est-à-dire fin 72 ou début 73. Honte est un poème bref et clair. Ça veut dire ceci. Tant qu'on ne m'aura pas tué, je resterai ce que je suis essentiellement et viscéralement. C'est-à-dire une mauvaise bête, dit-il. Une mauvaise bête méchante et puante, comme un chat-tigre ou comme une hyène. Puis tout à coup, à la fin, voilà les deux derniers vers, qui sont prononcés comme par quelqu'un qui baisse la voix et qui détourne la tête, car sa mort, pourtant mon Dieu, s'élève quelques prières.
Dans notre deuxième entretien, Henri Guillemin, vous nous avez montré le Rimbaud révolté, le Rimbaud de l'encrapulement volontaire et du dérèglement total. Mais vous l'avez lavé aussi de ses griefs, de ses blasphèmes, ce Rimbaud qui nous bouleverse par sa nostalgie du divin. Avec le troisième entretien, nous voici maintenant placés en face de la saison en enfer et sans doute en mesure de l'interpréter comme il faut.
La saison en enfer, c'est évidemment un texte pas comme les autres. Étienne, dans la thèse auquel je fais souvent allusion, parce que c'est un travail extrêmement important, Étienne se demande, maintenant, tel qu'il est devant Rimbaud, garde-t-elle un sens ? Ben, je crois qu'on ne peut pas mieux tomber d'accord que si on lui ôte sa signification de combat avec l'ange. Évidemment, ce texte ne garde plus aucun sens, car c'est ça qui emplit d'un bout à l'autre cet écrit incandescent. Nous avons la chance pour ce texte-là d'avoir des dates. Rimbaud l'a daté à la fin, avril, août 73. Et vous vous rappelez certainement que le coup de revolver tiré par Verlaine sur lui est du 10 juillet 73. Donc, le coup de feu intervient au milieu de la saison en enfer. C'est un texte troué d'un coup de feu. Quand on examine de près le texte, on voit bien quelle est la coupure, mais on comprend également qu'il y a là-dedans un mouvement unitaire et que malgré cette brisure, et d'un bout à l'autre, c'est le même thème. Quel thème ? Ben voyez-vous, après avoir bien des années travaillé sur cette saison en enfer, je crois maintenant que je peux la ramener sans erreur à ceci. C'est la furie d'un être qui cherche à secouer de lui pour le faire tomber la connaissance du bien et du mal, ce qu'il appelle l'envoûtement du baptême, ou encore brutalement ma sale éducation d'enfance, après tout, cette foi, comme il dit, cette foi qui fait mon malheur. Elle fait son malheur parce qu'elle l'oblige à se connaître et à se juger et à se condamner, et il ne veut pas se condamner parce que ce serait donner raison à ce Dieu à qui on ne peut pas pardonner après tout ce qu'il nous a fait. Pourquoi, dit-il dans un brouillon de la saison en enfer, pourquoi a-t-on semé une foi pareille dans mon esprit ? Bon, voilà un texte parfaitement clair. C'est donc le texte de quelqu'un qui croit, mais qui croit avec horreur. Rimbaud, voyez-vous, c'est quelqu'un qui se fait à lui-même l'impression d'avoir été, je vais vous offrir la deux images, soit empoisonné, soit emprisonné dans le christianisme. Empoisonné par le lait chrétien que sa mère lui a fait sucer. Emprisonné dans cette cage étroite et absurde du catholicisme où il a grandi, dit-il, difforme. C'est quelqu'un dans la saison en enfer qui cherche éperdument une issue. Il y a un moment où il pense qu'il y aurait une issue possible du côté des îles perdues, vous savez, des îles légendaires des mers du sud, où il n'y a que des sauvages. Mais dit-il, là c'est déjà une erreur, c'est trop tard. Parce que, texte de la saison en enfer, les blancs débarquent, le canon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'îles maintenant à l'abri du colonialisme, et derrière les soldats, quoi donc, les missionnaires avec leur maléfice terrible du baptême. Je me suis mis, dit-il alors, à envier la félicité des bêtes, la chenille dormante, la taupe aveugle, mais tout ça, c'était un rêve. Alors au moins il a une issue, c'est vrai, c'est l'issue de l'hallucination, quitter l'existence réelle par l'hallucination volontaire et provoquée. Seulement très rapidement, Rimbaud se rend compte que c'est là une marche à l'abîme, et il l'écrit dans le texte même de la saison en enfer où il dit « Ma faiblesse me menait par des routes de danger aux confins du monde et de la cimérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. »
Oui, mais enfin, la saison en enfer est un texte difficile, reste un texte difficile tout de même. Est-ce qu'il est contradictoire ?
Mais absolument, c'est tout à fait vrai. C'est un texte contradictoire, c'est ça qui en rend l'interprétation si malaisée, parce qu'on passe perpétuellement du oui et du non, du blanc au noir. Mais justement, je me suis aperçu que la signification réelle et la grandeur de la saison en enfer, c'est justement cette loyale contradiction. Je m'explique. Voyez-vous, je prends une image bien trop contemporaine. Rimbaud me ferait penser à quelqu'un qui tient braqué contre son cœur une caméra et qui enregistre à mesure les mouvements contradictoires qui se passent en lui-même, comme des fulgurations antagonistes, comme s'il y avait des propositions simultanées et parfaitement contradictoires, en effet, du bien et du mal. Toutes les propositions y sont, mais il a parfaitement vrai qu'à travers ce grondement ou ce crépitement de brasier, on les entend, les propositions de l'espérance. On voit apparaître la nostalgie de la pureté. On voit chez ce Rimbaud de la saison en enfer l'espoir d'une grande lumière où se dissoudraient tous les obstacles. Est-ce que c'est la peine que je vous cite, je vais le faire tout de même parce que je trouve ça tellement beau, les 4 ou 5 textes de la saison en enfer qui manifestent cette espérance. Par exemple, quand il dit « J'ai reçu au cœur le coup de la grâce » ou encore « Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur » ou encore ceci qu'on cite moins souvent et que je trouve tellement admirable, « Le bonheur, sa dent douce à la mort » il veut dire « mortellement douce. Sa dent douce à la mort m'avertissait au chant du coq dans les plus sombres villes, ad matutinum, au Christus venit, quand pour les hommes forts le Christ vient. » Puis encore cette autre citation que Mauriac aime souvent reproduire. « La vérité peut-être est-elle là qui nous entoure avec tous ces anges pleurant. Ô pureté, pureté, c'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu, déchirant d'infortune. » Ben vous voyez ces textes que je viens vous citer, ces textes que l'on a appelés des textes chrétiens, tout de suite après, il y a le non. Et dans quoi s'insèrent-ils, dans quoi sont-ils ces textes-là, précisément dans un chapitre qui s'intitule « L'impossible ».
Vous faisiez allusion tout à l'heure à une caméra que Rimbaud tiendrait braquée contre lui. Alors permettez-moi de vous poser cette question, comment est-il sorti de ce film dans lequel il s'est mis en scène au péril de sa vie?
C'est une jolie question. Il y est sorti, je crois, par le coup de revolver de Bruxelles, et je vais vous dire mon interprétation là-dessus, ce n'est pas tellement le fait du coup de revolver, c'est son comportement après le coup de revolver qui a tout déclenché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vous rappelle les faits, vous les connaissez, ça se passe donc ce 10 juillet 1873, Rimbaud était resté en Angleterre alors que Verlaine était reparti brusquement pour Bruxelles, Rimbaud gémit pour rejoindre son ami Verlaine qui l'a laissé sans un sou. Verlaine consent à le faire revenir, ils se trouvent donc à Bruxelles tous les deux, et en plus se trouve aussi là Madame Verlaine, la pauvre mère Verlaine, qui était dans le même hôtel que les deux hommes. Verlaine s'enivre. Verlaine a acheté un revolver. Et ce jour-là, au début de l'après-midi du 10 juillet, Verlaine enferme Rimbaud dans la chambre, met une chaise contre la porte, s'adosse à cette porte pour que Rimbaud se sente bien captif, sort son revolver de la poche et tire. Rimbaud reçoit une balle dans l'avant-bras gauche, la deuxième balle se perd dans le plancher. Verlaine se trouve un peu dégrisé, un peu épouvanté, la pauvre vieille Madame Verlaine a surgi de la chambre voisine en entendant le coup de feu. Rimbaud saigne, il faut donc le conduire tout de suite à l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles pour essayer de faire extraire la balle. Le médecin dit qu'on ne peut pas l'extraire tout de suite, mais enfin il est valide, il peut marcher avec son bras en écharpe. Et Rimbaud décide de repartir tout de suite pour Roche auprès de sa mère. Alors présentez-vous bien la chose, ils sont en train de marcher tous les trois, la vieille Madame Verlaine, Rimbaud et Verlaine, dans les rues de Bruxelles, se dirigeant vers la gare du Midi.
Ils arrivent à la place Roup, qui est tout près de la gare.
À ce moment-là, Verlaine qui aperçoit la gare qui marque la séparation définitive sans doute avec Rimbaud, Verlaine se met à courir dans la rue, fait une dizaine de pas pour précéder sa mère et Rimbaud. Il a mis la main dans sa poche et dans cette poche, il y a son revolver, et il marche de nouveau sur Rimbaud, comme si à travers la poche de son veston, il allait lui tirer dessus. Alors Rimbaud prend peur, c'est ça qui est très important, Rimbaud prend peur, et il court dans la direction d'un agent de police qui était là en faction, il dénonce cette espèce de foufounet qui veut le tuer, et c'est ça, je crois, qui est pour lui le pire. Comprenez-moi bien. Rimbaud, vous le rappelez, enfin, quelqu'un qui vivait dans l'idée qu'il serait le grand malade, le grand maudit, le grand criminel, le suprême savant. Il voulait être un rebelle, il avait été un communard, il se figurait qu'il était à nouveau Satan. Et tout à coup, parce qu'il a vu sa vie menacée, il se comporte, mon Dieu, il se comporte comme n'importe qui, comme un petit bourgeois qui a peur de sa peau, et il appelle au secours les flics. Eh bien, c'est pour lui un dégrisement, vous comprenez, c'est un paquet d'eau froide qui lui tombe sur la tête. Et il va écrire tout de suite « Je ne suis qu'un paysan, je suis rendu au sol, avec la réalité rugueuse à étreindre, oui. » Ce qu'il dégoûte, c'est en somme de s'être payé de mots. Il en a assez de ce qu'il appelle les effets littéraires. Il va écrire « Je hais maintenant les élans mystiques et les bizarreries du style, maintenant je puis dire que l'art est une sottise. »
Cependant, il ne cesse pas d'écrire aussitôt, puisqu'il termine la saison après Bruxelles.
Oui, ça, il y a une explication assez nette, je crois. Il va terminer sa saison en enfer pour 3 raisons. D'abord à cause de sa mère. Sa mère, depuis 2 ans qu'il ne faisait rien, en somme, qu'il disait « je me prépare », mais enfin, il ne gagnait pas d'argent. Il avait déjà 20 ans. Sa mère lui disait « où ça te mènera-t-il, tout ça, cette littérature ?» Je crois qu'il a le sentiment de pouvoir montrer à sa mère que ça l'a amené à quelque chose, à savoir un écrit. Quand il relit ce qu'il vient d'écrire, s'il le trouve pas mal, il veut lui montrer « j'ai été capable de faire ce livre-là ». Deuxième raison pour laquelle il continue, c'est parce que, vous savez, quand on a goûté au délice d'écrire et qu'on est quelqu'un comme Rimbaud qui a le sens du style, eh bien, c'est très difficile de s'en passer tout de suite. Puis troisièmement et surtout, je crois que revenu à Roche, avec son bras encore malade, et rouvrant ce qu'il avait déjà écrit de la saison en enfer, quand il le relit, il trouve que c'est extraordinaire. Lui-même s'en étonne. C'est quelque chose qui est, pour ainsi dire, des choses plus grandes que lui, à lui-même surprenantes, comme s'il les avait écrites sous je ne sais quelle dictée mystérieuse et dans un état de transe. Parce que tout de même, c'est vrai que dans ce texte que nous lisons aujourd'hui à tant d'années de distance, il y a ce qu'on peut appeler littéralement des prémonitions. Rimbaud ne se doutait pas que quand il écrivait ces choses-là, il annonçait, mais exactement, il annonçait son avenir. Par exemple, quand il écrit « Je ne vieillirai pas », il mourra à 37 ans. Lorsqu'il dit « Les climats perdus me tanneront », je ne sais pas si vous avez vu les photographies de Rimbaud en Éthiopie avec ce visage brûlé, et puis surtout il y a ceci, « Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. » Il sera, lui, en 91, ce féroce infirme, retour des pays chauds, et soigné par sa sœur. Et enfin, il y a aussi dans la saison en enfer, ceci, sur son lit d'hôpital, l'odeur de l'encens lui est revenue si puissante. Mais c'est exactement ce qui va se produire en 91, sur son lit d'hôpital à la Conception à Marseille, et l'odeur de l'encens qui reprend son âme. C'est un météore, voyez-vous, cette espèce de saison en enfer. C'est une pierre tombée de l'inconnu.
Oui, mais le silence ensuite, pourquoi ce silence?
Là aussi, je trouve l'explication aisée, me semble-t-il, maintenant. Pourquoi il va se taire? C'est parce que c'est quelqu'un qui, par son angoisse métaphysique, a été amené non seulement au bord de la mort, mais au bord de la folie. Rimbaud, après la saison en enfer, c'est quelqu'un qui va essayer d'être cet autre dont nous parlions dans le deuxième entretien. « Je » est un autre, vous savez. Oui. Ce « je » qui était dominé par cette puissance surnaturelle. Mais il voudrait l'écarter de lui, cette puissance, la refouler. Il ne veut plus être quelqu'un qui est empêché de dormir par les problèmes métaphysiques de nous autres. Nous autres, en somme, la métaphysique ne nous empêche guère de dormir. Rimbaud, oui, ça l'empêchait de dormir. Alors il ne veut plus connaître maintenant, en fait, problème que ceux de l'immédiat et du concret. Mallarmé nous dit, le drame de Rimbaud, c'est que c'est un poète qui s'est amputé lui-même de la poésie. Ben, je vous dirais, moi, c'est que c'est un homme qui a essayé de s'amputer lui-même de son âme. Il a voulu vivre désormais à la surface de son âme, l'approche de son âme, interdite à ce qui avait failli le rendre fou. Et quand Verlaine le revoit en 75, après la sortie de Mons, il le retrouve absolument méconnaissable. C'est à Stuttgart qu'il était allé le revoir. Et il écrit dans ses lettres à Adelaide, tu ne te figures pas ce qu'est devenu Rimbaud. Il est maintenant antipoète au dernier degré. C'est un homme positif, réaliste, qui vous dit que dans la bataille du monde, il n'y a qu'une chose à faire, c'est à jouer des coudes, à jouer serré, et qu'il faut être un peu crapule pour réussir. Voilà où il en est maintenant.
Eh bien, effectivement, il lui fallait bien vivre maintenant et gagner sa vie. Que fait-il au juste?
Rimbaud, il est aidé à se préserver de l'angoisse par le souci même du pain quotidien. Voyez, sa mère, je vous le disais il y a un instant, lui disait toujours, où ça te mènera-t-il? Ben, ça l'avait amené à risquer la mort à cause d'un ivrogne littérateur, et il lui fallait le pain quotidien. Alors il va faire, depuis 75 jusqu'à 80, toutes sortes de métiers, et nous ne les savons pas tous. On sait qu'il a été professeur, il a été pion dans une institution à Maison-Alfort, à l'automne, après la rentrée des classes, à l'automne 1875. On suppose, mais ça j'ai pas de preuve, qu'il aurait été dans un cirque français qui s'appelait le cirque Loisset, qui faisait une tournée au Danemark et en Scandinavie. Il aurait été là non pas comme bonimenteur, mais comme plus ou moins caissier. En tout cas, il a été certainement attiré, d'une manière étrange, par le sud, par les pays du soleil. À plusieurs reprises, on le voit qui descend vers l'Italie, vers Alexandrie, puis il est obligé de revenir. Puis finalement, en 80, pendant l'été 80, le voilà qui rebondit de port en port le long de la mer Rouge, à Souakim, à Massawa, à Jeddah, à Hodeïda. Et c'est à la fin, non, c'est au mois d'août, oui, au mois d'août 1880, qui débarque dans cette espèce de cuve de feu qu'est Aden, et là il va trouver cette situation auprès de la maison Bardet, Viadet et compagnie. Il va en remettre, si je puis dire, il va travailler comme un forcené, avec une espèce de complaisance dans cette vie terrible qu'il s'impose. Je vous citais dans le premier entretien des phrases de lui où il gémissait, où il disait par exemple à sa mère « Ma vie est un cauchemar, notre vie est une misère, c'est vrai qu'il avait un métier de forçat. » Seulement il y a un autre texte que j'avais réservé pour maintenant, un texte assez extraordinaire en effet, et où il dit à sa mère, « Si je me plains, c'est une espèce de façon de chanter. comme si, dans ce travail même furieux qu'il s'impose, comme s'il apportait je ne sais quel sentiment, je ne sais quelle connivence, comme s'il y avait, dans cette vie terrible, une ressemblance d'ascétisme et d'expiation.
À propos, on a parlé de saison en enfer, volontairement choisie en Éthiopie, est-ce vrai?
Je crois que Rimbaud aurait furieusement ricané. S'il m'avait entendu dire ce que je dis maintenant, une ressemblance d'ascétisme et d'expiation, ces mots-là, pour lui, il ne voulait plus les employer. C'est un vocabulaire absolument dépassé. Il soutenait qu'il était absolument incroyant maintenant. Et il y a un texte de lui dans une lettre à sa mère où il dit carrément « Heureusement que cette vie-là est la seule et que cela est évident. » On a l'impression qu'il voudrait se rendre insoupçonnable, qu'il voudrait donner à sa mère elle-même la sensation, enfin le sentiment et la certitude que tous ces problèmes-là sont bien loin de lui. Et que s'il travaille simplement d'une manière forcenée, c'est pas autre chose que pour s'enrichir le plus vite possible, pour jouir, pour rentrer au pays. Mais non, vous avez vu dans notre premier entretien qu'il ne veut pas du tout rentrer au pays, qu'il ne veut pas s'installer, qu'il ne veut pas être un assis. On se le représente quelquefois comme quelqu'un qui envisage d'être un colonial enrichi, qui achètera une petite maison et qui prendra des pantoufles et du ventre. C'est absolument pas vrai. Là aussi, j'avais réservé un autre texte, un texte de 85, où il dit à sa mère, « Si je deviens riche, je voyagerai sans cesse. Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques. » Et 1000 vies humaines ne suffiraient pas pour le visiter. Son espoir, voyez-vous, s'il devient riche un jour, c'est d'être béant devant l'univers, regardant, écoutant, essayant de comprendre une fois pour toutes le fameux mot du secret.
Il rentre pourtant au printemps 1891.
Ben oui, mais attention. Alors là, laissez-moi vous expliquer, je sens très bien que c'est la partie la plus vulnérable de mon exposé, c'est celle où je vais me risquer le plus et où mon ami Étienne estimerait que je me trompe tout à fait. Enfin, je me risque et je vous explique comment je la vois, cette fin de Rimbaud. C'est vrai qu'au début de 91, le voilà qui veut rentrer. Il est très là. Après 10 ans d'une vie pareille, c'est pas étonnant. D'autre part, il a mis tout de même l'argent de côté. Il a une somme qui équivaudrait actuellement à 100 000 francs suisses. Et il se dit qu'il peut bien rentrer au pays. Et maintenant, dans ses lettres à sa mère, il parle de rentrer effectivement. Il parle plus de repartir, parce qu'il n'en peut plus. Le pire moment de sa vie, voyez-vous, ben, je crois que c'est maintenant. C'est pas au moment où il avait ses griefs et ses blasphèmes. C'est maintenant, où il est tellement là et où il est en péril de gagner cette furieuse, cette affreuse bataille qu'il mène depuis 15 ans contre son âme pour essayer de l'étouffer et d'en faire une morte. Lorsque Verlaine l'avait rencontré, je vous le disais il y a une minute, l'avait rencontré en 75, il avait été effrayé de le voir transformé en ce petit bourgeois apparent du moins, trafiquant et uniquement soucieux de réussite. Pas seulement affolé, il avait été blessé, peiné, et scandalisé. Verlaine écrivait à son ami Delahaye, « Je te garantis que s'il continue comme ça jusqu'à 30 ans, à 30 ans il ne sera plus qu'un sale petit bourgeois crasseux et mufle. » Lui Rimbaud, enfin le mauvais ange, l'ange fatal, le prédestiné. C'est à ce moment-là que Verlaine écrit un très beau texte qui est en sagesse, qu'on cite presque jamais, un texte sur Rimbaud, qui commence comme ça, « Malheureux tous les dons. » Ça veut dire « Malheureux, tu avais tous les dons. » Et parmi ces dons, il compte la grâce du baptême. Il compte le fait d'avoir une mère comme il l'avait, une mère si noble. Et il lui dit maintenant, tu gâches tout, tu perds jusqu'au dernier pouvoir de ton esprit, hélas. Et le texte se termine par une prière. Dieu des humbles, sauvez cet enfant de colère. Et bien voyez, cette prière, cette imploration de Verlaine, elle sera écoutée. Non, il ne sera pas accordé à Rimbaud de venir à bout de son âme. Je m'explique, et encore une fois, je vous dis que je me risque. De même qu'ici-bas, dans l'ordre des choses créées, tout est allusion et symbole. Et la métaphore, par le chemin de l'analogie, n'est qu'un essai de transférer les choses dans le domaine de l'intelligible. De même aussi, dans les vies humaines, dans les trajectoires humaines, il n'en est pas qu'il n'ait une signification de parabole. Alors, dans cette perspective d'une raison des choses, et d'un monde où tout aurait un sens, la destinée de Rimbaud, comme tout à coup, comme elle devient pour nous, lisible. Ce furieux esprit contre la cage, comme dit Claudel, que nous avons vu autour de sa 20e année, plein de clameurs et de blasphèmes et de malédictions, et qui, pour ne pas se rendre et pour ne plus souffrir, avait cherché le chemin de l'absence et de l'exténuation, le voilà maintenant au seuil de la mort, qui va ressusciter, non pas dans la lâcheté d'une panique, mais dans l'embrasement d'une adhésion. Ce déchaînement, cette espèce de déchaînement ou de soulèvement torrentiel qu'était la saison en enfer, du ventre de l'enfer j'ai crié, comme dit le prophète Jonas, cette espèce de tumulte de oui et de non, de mélange d'adoration, de crachats et de sanglots. Tout ce vortex et toute cette trombe de la saison en enfer qu'il avait essayé de conjurer, tout ça, c'était comme, malgré lui, une espèce de prière en forme de hurlement. Ce que je réclame, ce que je demande, ce que je veux, j'en sais rien, et si j'étais capable de parler, je ne crierais pas. Et tout se passe comme si Dieu mystérieusement lui répondait « Pensais-tu donc m'échapper, si réduit et si blotti que tu te fasses? Est-ce qu'il est si facile de ne pas m'aimer? C'est en vain que tu te défends. Tu ne te défendras pas éternellement contre ma paix. Pour ne pas me préférer, il aurait fallu ne pas me connaître. C'est en janvier 91 qu'il décide de repartir, et voilà que dès février, il est saisi d'une violente douleur à la jambe droite. Cette douleur devient telle qu'il décide de se faire transporter sur la côte, voyez, à la jambe droite. Il est saisi par la patte. Ce fuyard, on dirait qu'une main le happe. Alors il se fait transporter en 12 jours, une descente horrible, enfin un vrai calvaire, de Harar jusqu'à la côte, à Zeila. Les porteurs sont mal payés, alors ils le laissent tomber de leur haut pour lui apprendre à vivre et à payer plus cher. Quand il arrive sur la côte à Zeila, il monte dans un boutre, vous savez, les gros bateaux ronds de la mer Rouge. Le boutre le transporte à Aden, il va tout de suite à l'hôpital, naturellement. Les médecins se récusent, ils disent que ça a l'air très mauvais, qu'ils ne peuvent pas l'opérer, et qu'il vaut mieux l'envoyer à Marseille, c'est pas la porte à côté. Alors le voilà qui refait 12 jours de mer dans la fièvre, ne pouvant presque pas s'alimenter. Si bien que quand il arrive à Marseille, il n'en peut plus naturellement, il est dans un état horrible, on le transporte à l'hôpital de la Conception, et les médecins disent, opération tout de suite, il doit avoir un sarcome du fémur. Effectivement, il est opéré presque tout de suite. Et puis il pleure, il se lamente, il dit qu'il n'est qu'un débris humain. Tout de même, il commande une jambe mécanique, sa jambe lui fait bien mal d'abord, enfin il arrive à la faire marcher. Il se réfugie à Roche, auprès de sa mère, pendant l'été 91, il n'a pas de chance, c'est un été pourri, il pleut tout le temps, où il gèle à partir du 23 août. Alors cet homme moignon, tel qu'il est, décide follement de repartir. Il a décidé de repartir, oui, pour Marseille, pour Aden, pour recommencer là-bas, alors dans son pays de soleil, bien sûr, il ne pourra pas. Sa sœur Isabelle l'accompagne, elle ne veut plus le quitter, elle retourne à l'hôpital de la Conception à Marseille, pas question d'embarquement. C'est là qu'il va être pendant un mois odieux, insultant tout le monde, y compris sa sœur, accusant les religieuses et les infirmières, les pires horreurs. Et puis tout à coup se produira l'événement inattendu et suprême, enfin celui que nous savons, celui du dimanche 25 octobre, où tout à coup il accepte les aumôniers. Bien, vous vous rappelez ce que j'ai dit dans mon premier entretien, enfin la lecture que j'ai faite de la lettre, quand elle dit « Isabelle, il m'a demandé de m'approcher tout près, il m'a regardé dans les yeux, il m'a demandé si je croyais, il m'a embrassé, j'ai dit que je croyais, et maintenant il ne pleure plus, il ne crie plus. » Voyageur Oussa disparu demande de lui Verlaine dans un beau poème écrit en 80 je crois quand Verlaine ne savait plus rien de lui. C'est un voyageur qui avait disparu dans un poudroiement de soleil en effet comme une flamme qui disparaît dans le grand jour. Et pour finir je voudrais vous lire un tout petit texte de Claudel qui n'est pas un texte littéraire, c'est pas du Claudel difficile, du Claudel en prose très simple. Et ça fait partie de Prières que Claudel avait écrite en 1935 alors qu'il croyait sa vie presque terminée, et parmi les prières qu'il avait écrites pour les miens, son père et sa mère, sa sœur, il avait mis une prière pour Rimbaud, qui est un des siens aussi. La voilà. Il est donc juste, Seigneur, que les yeux levés avec bonne volonté vers votre croix, je vous prie pour Arthur Rimbaud, sans qui mes yeux ne se seraient pas ouverts à votre visage. Il y a eu cet adolescent féroce et hagard, ce sauvage, ce forcené, ce vagabond, cet irréductible, ce proscrit, ce désespéré. Mais il y a tout de même aussi quelqu'un chaque jour qui pense à lui. Il y a quelqu'un obstinément pour attester devant Dieu qu'il lui doit tout. Il y a quelqu'un pour lui devant Dieu comme il peut, qui ne cesse de demander pour lui pardon et justice.